regagner le jour. Mais comment ? Par la voix. En écoutant la voix. Et l'expression d'un visage et même l'expression d'un sourire passe dans la voix de ma vie. Je n'ai jamais vu plus beau visage que sa voix. Plus beau visage mis à nu par le silence de mes doigts.
Comment écrivez-vous ?
J'enregistre sur une bande, mini-cassette, ça surgit comme ça, et après je suis comme à l'écoute de ces masses, des masses, et je les mets en proportion de forme et de couleur.
Et après ce sera à droite, dans le couloir.
Je n'ai jamais vu plus beau visage que sa voix.
Jeanne Léveder, Anne Kropotkine et Marie-Laure Ciboulet.
Alors, les fameuses cassettes sont mises dans ce sac-là. Je les ai mis dans une boîte depuis longtemps, marquée en gel, et je n'avais jamais ressorti. Voilà, il y a marqué Jean-Pierre Siméon. C'est des gens qui m'ont donné ça. Je ne sais plus par qui c'est passé. Qui a récupéré ça à la mort d'Angèle. Et il y avait des cassettes de mon père, je ne sais pas. Parce que là, j'ai ouvert ce matin. C'était fermé. Je n'ai jamais écouté. Hein. Et il y a marqué... 31 janvier 77, une face effacée. RS, Roger Siméon. Je ne sais pas. Quelqu'un, à mon avis, va me mettre là à effacer une face. Oui. Pourquoi, comment, je ne sais rien. Et alors voilà, il y en a 24.
Il y a peut-être trop de secrets dessus.
Il n'y a que ceux qui pourront écouter ça qui le sauront, puisque ça n'a jamais été réécouté depuis. Il y en a qui n'ont pas d'indication, il y en a qui ont des dates, il y en a qui ont des... Voilà. C'est de l'histoire maintenant. Hein. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit préservé, c'est tout. Puisque, voilà, c'est pas de l'histoire personnelle, c'est de l'histoire littéraire maintenant.
Et maintenant, le rideau s'ouvre. Et la voici. Elle. Et de qui parlons-nous ? De la parole ? Ou de la femme ?
C'est incroyable, ce petit bout de femme, la poésie lui brûlait les lèvres. Elle était tellement présente dans sa voix et dans son texte qu'il faisait corps avec elle, avec sa bouche, avec son souffle, que tout paraissait d'un naturel incroyable et d'une puissance de suggestion incroyable. Il y a quelque chose de troublant dans la puissance de sa parole et dans le rayonnement, l'irradiation de sa parole, de sa voix. Elle écrit en parlant. C'est-à-dire que le poème est consubstantiel et concomitant aussi, n'est-ce pas, du souffle et de la voix.
Pour ce spectacle, un seul personnage, aveugle de surcroît, et qui se trouve être l'auteur qui désire vous proposer simultanément sa vie et son œuvre.
Vous avez un nouveau message. Aujourd'hui, à 13h46.
Oui, bonjour, je suis Nicole Laurent-Catrice. Je vous rappelle au sujet d'Angèle Vanier. J'ai effectivement pas mal de cassettes. Est-ce que vous pouvez me rappeler soit aujourd'hui, soit demain, mais pas plus tard. Merci.
Entre la pluie et le sommeil, l'aveugle touche l'arc-en-ciel, l'aime, le respire et l'écoute.
Oui.
Bonjour, ici Jeanne Léveder, vous avez essayé de m'appeler, oui. Bonjour. Vous m'avez dit que vous aviez des cassettes de Angèle Vanier, c'est ça ?
Oui. Il y en a presque une cinquantaine, donc là, j'en avais pour des heures. Et d'autre part, j'aimerais bien savoir un peu ce que c'est que votre projet, là, que vous en parliez un peu.
Oui, bien sûr. Et en fait, il y a plein de choses possibles. Pour l'instant, on en est encore qu'au début, puisqu'on on enquête, en fait, seulement pour l'instant, pour savoir s'il reste des cassettes. Et...
Bonjour.
Du coup, merci de nous rappeler aussi rapidement. Alors, du coup, il y a Anne qui est avec moi, justement, là, Anne Kropotkine.
Ah, bah, c'est bien.
Bonjour, Myrzine.
Bonjour. Moi, j'ai aussi une boîte à chaussures de cassettes. Il y a beaucoup de choses que la famille ne voulait pas garder. Donc, j'ai récupéré toutes les photos d'Angèle. ses petits agendas, etc. Un certain nombre de gens lui avaient mis dans la tête qu'elle portait malheur. Bon, c'est vrai qu'elle n'a pas réussi à se faire connaître comme elle aurait dû. Puis elle disait elle-même, j'ai trois tares, je suis femme bretonne et aveugle.
Nous allons aujourd'hui demander qui elle est à Mademoiselle Angèle Vanier. Mademoiselle, je vais vous poser tout de suite la question générale. Qui êtes-vous ?
Eh bien, je suis poète, je suis aveugle. Je suis née à Saint-Servan-sur-Mer. J'ai fait mes études secondaires à Rennes. J'ai passé mon bachot, j'ai fait mes études de pharmacie. Et depuis ma cécité, c'est-à-dire et actuellement, j'habite à la campagne, un petit village de Haute-Bretagne.
Bon, eh bien maintenant, je vais vous poser la série de questions habituelles. Quelle est votre occupation préférée en dehors de votre profession ?
En dehors de ma profession, mon occupation préférée est de me raconter des histoires en fumant des cigarettes.
On peut mettre un peu au hasard une cassette, mais c'est parce qu'elle arrive vraiment extraordinaire.
Bonjour Nicole, j'ai reçu ta bande aujourd'hui. Je l'ai écoutée avec infiniment de plaisir. Comme il se trouve que sur cette bande, j'avais l'enregistrement des poèmes brocéliants que tu... Je pense que cela te plaira de les entendre avec ma propre voix. Je ne savais pas ces poèmes par cœur, ils ont donc été enregistrés en écoutant sur une bande et en copiant sur l'autre. Donc il y a des clips, des clopes. Mais tel que c'est, je te le livre. À la suite des poèmes, je répondrai à ton message.
Là, ça, c'est sa signature. Ma Nicole très chère, autant que toi, je regrette nos contacts fervents. Si tu disposais d'un magnéto mini-cassette, nous pourrions correspondre par cassette. Il m'est impossible pécuniairement de consacrer du temps de secrétariat à la correspondance. J'ai donné des récitals intéressants la saison 75-76. Repris les réunions poétiques. Beaucoup de travail, mais si peu rémunéré. Sur une bande, je pourrais tout te raconter. Je t'embrasse.
Est-ce qu'il faut qu'on enlève nos chaussures ?
Non, non.
Merci de nous accueillir.
Voilà. Si vous voulez vous asseoir dans un premier temps, on peut aller là.
Oui.
Parce que vous serez assise sur le canapé d'Angèle.
Ah.
C'est moi qui ai été du salon. Voilà. Donc,
c'est le canapé du Châtelet ?
Oui, du Châtelet, les fauteuils, la radio, la glace, le meuble boule, tout le salon.
Fantastique, et même la radio, incroyable.
Et même la radio, c'est une radio de 1958 que lui avait offert son mari. Donc ça fait radio, magnétophone, le tourne-disque, tout ça c'est à lampe. Alors c'est d'une qualité, avec chambre d'écho et tout. Elle écoutait France Culture tous les jours, assise sur son petit tabouret qui est par là.
Vous pourriez la faire marcher, juste
pour... Ah oui, oui, bien sûr. Ah, je vais mettre ça.
Et maintenant, la philosophie sur France Culture.
Ça marche aussi bien.
Que s'est-il passé en 10 ans ? Quels sont les nouveaux concepts, les nouveaux sujets, les nouveaux mots de la philosophie ? Démocratie, planète et morale, pour la dernière semaine des chemins de la philosophie, on se tourne vers l'avenir.
Alors ça, c'est des cassettes que j'ai récupérées dans les tiroirs, puisque comme ces petits carnets, ces petits agendas, ça partait à la poubelle. Avec Angèle, le Rouge Cloître, voilà une répétition de Rouge Cloître, qu'on devait donner à la Maison de la Culture de Rennes. Personnage d'un sol et des songes. Récital d'Angèle Vanier et de Mirzine, lors du Festival Celtique à Berlin. Angèle, radio armorique.
Il faut toucher. Bien sûr, la voix, on ne la touche pas. Mais c'est pareil, parce que la voix touche l'oreille. C'est encore de l'ordre du toucher, ça. Les sons aussi touchent l'oreille.
La porte est ouverte.
C'est quel numéro ?
C'est...
5.
Mériot, 5.
Merci.
Bon, bah, asseyez-vous, il y a de la place.
Le magnéto qu'on a réparé ensemble, qui fonctionne super bien. On installe le magnéto parce que tu sais, on avait envie d'enregistrer la séance.
Ouais. Ça claque la photo.
On dirait Marguerite Duras.
Ouais. On en est vraiment dans les mêmes époques. Mais lui, en fait, celui-là, ça, c'était un des premiers magnétos, un des Philips ou Thomson. Et c'est quasiment le premier truc à cassette qui est sorti. Et donc, en fait, ces poses électriques, ça provoque des artefacts assez sympas, quoi. Ça te fait un truc bizarre, ça coupe le circuit électrique, donc en fait, ça fait une espèce de... Puis des petits squeezes, et notamment quand ça repart, surtout quand le son repart, la voix, en fait, se tord dans le segment où il y a cet artefact.
Je t'enregistre cette deuxième face. Je t'enregistre un bout du montage. En réalité, il dure 1h15. Alors c'est un recopiage, hein, c'est jamais bien fameux.
Brocéliande, que veux-tu ? Montage. Que veux-tu, Brocéliande ? Avec tes grands yeux verts, prenant et reprenant les ombres de nos ombres à tes pièges, triplant la mise au dernier coup des sortilèges. Trois fois tu m'as joué au dé de tes refrains et décousu la bouche et parcouru les reins.
Bonjour.
Bonjour, mesdames.
Enchantée.
Mais il va falloir qu'on sache qui c'est, moi.
Anne, je m'appelle Anne. Jeanne. On cherche la tombe d'Angèle Vanier.
Ah, la tombe d'Angèle Vanier. Alors, Angèle Vanier... Angèle Vanier...
Les ourlets de la nuit se cousent dans le temps des morts.
Angèle Vanier.
Merci beaucoup.
Ah, c'est Angèle. Ah, c'est là.
Ben oui. Ben c'est là, c'est sûr.
Merci beaucoup.
Voilà. Oh, ben c'est bien ça. Oui.
Et donc, vous l'avez connu ?
Oui, ben oui, je suis né en 1945. J'ai passé toute ma vie à Bazouges. Angèle Vanier, oui, mais je l'ai connu.
Angèle Vanier, 1917-1980.
Oh là là, incroyable. La carte d'identité d'Angèle Vanier. Vanier, Angèle Marie-Thérèse, étudiante, nationalité française, née le 12 août 1917 à Saint-Servan. 1m50, cheveux châtains. Barbe néant, yeux marron, front ordinaire, bouche
moyenne,
menton
rond, visage ovale, teint clair, signe particulier, portait des lunettes.
En fait, elle voyait à ce moment-là.
Oui, elle voyait.
Petite fille que sa mère déposa à l'âge de 8 mois dans une grande demeure de granit à Bazouges-la-Pérouse près de Combourg, pays de Châteaubriant. Là vivaient 4 filles.
Alors, elles avaient des noms. Grand-mère Olympe. La servante, c'était Amélie. Ma tante, c'était Eugénie. Et ma grand-tante, c'était Angélique. Alors, Angélique, Eugénie, Amélie, Olympe. C'était des beaux noms. Déjà là, peut-être que ces noms-là m'avaient déjà donné l'amour des mots. Alors, elles avaient chacune leur rôle, le soir. Alors, c'était tante Eugénie, que tout le monde dans le pays appelait mademoiselle. Elle était très grande et... Elle avait beaucoup de dignité, et puis elle ressemblait, je sais pas, c'était une espèce de synthèse d'Angélique Arnaud et de Sainte-Thérèse d'Avila. Elle faisait très abbesse de monastère. Elle jouait de la musique d'ailleurs, elle tenait les orgues à l'église. Et vers ses 80 ans, alors qu'elle avait toujours vécu ici, eh bien, elle s'est intéressée à la musique d'Olivier Messiaen et la voix d'Edith Piaf. Elle adorait Edith Piaf. Il y avait un tel amour de la musique, de la voix, de la qualité de la voix. Alors, mademoiselle fermait les volets. Amélie tournait les clés dans les serrures. Et puis, grand-mère éteignait le feu. Ah, puis, marraine Angélique, tante Lique, comme on l'appelait, n'en faisait rien, elle se plaignait. Elle disait toujours, la vie est une misère, mon enfant une misère. Voilà ce qu'elle faisait, elle. C'était le mur des lamentations.
Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, la mère a accouché à Saint-Servan, et non pas à Rennes. C'est à la gare qu'ils ont donné le bébé. Pourquoi est-ce que la mère n'a pas gardé ce bébé et qu'elle l'a envoyé chez sa mère à elle?
Et pourquoi le père est complètement absent?
Oui, parce que le père a été un prisonnier. Elle est née en 17, Angèle, c'était la guerre 14. En plus, c'est ça aussi. C'est un peu spécial.
Je vais d'abord vous poser une question, Angèle Vanier. Qui êtes-vous?
Qui je suis, mon Dieu, comme c'est difficile. Je suis quelqu'un qui a vécu en Bretagne toute son enfance, élevée par 4 femmes. Je suis quelqu'un qui a perdu la vue à 21 ans et qui, par une espèce de destin, je suis pas tellement un être de volonté, d'ailleurs on croit ça, mais c'est pas vrai, je suis plutôt très soumise au destin et je l'épouse. Mais à ce moment-là, je me suis engagée dans l'aventure poétique parce que, étant donné que j'écrivais des poèmes toute petite fille, bien, il n'y avait pas d'autre voie.
La cécité était une libération. Ah oui, d'ailleurs, il y a une rupture complète dans sa vie à partir de ça. Il y avait en elle sûrement déjà un caractère hors du commun, hein, mais vous vous rendez compte, elle a 22 ans, elle devient aveugle, elle devait être pharmacienne, enfin une vie toute tracée dans un certain monde. Et la cécité, pour elle, et d'une certaine façon, l'a fait bifurquer, donc lui a ouvert un chemin qu'elle n'aurait jamais pris.
Le voyage, l'aventure, Paris, alors commence les voyages dans le train Paris-Brest. Le Paris de Brest devient pour elle comme le carrosse de Cendrillon. Au Mans, 10 minutes d'arrêt. Là, à l'aller, comme au retour, rythme, visage de l'éternel retour, là, au Mans, elle sait qu'elle doit changer de livrée. Vers Paris, elle prend sa peau de fille de la ville. Vers la Bretagne, elle reprend sa peau de fille de la terre.
Elle va à Paris, elle a rencontré Duhart et Edith Piaf, enfin, vous voyez, tout ce monde-là. Tout d'un coup, elle était libérée. D'ailleurs, elle ne se plaignait pas de sa cécité, hein, jamais. On vivait avec elle comme si elle n'était pas aveugle.
Écrire des chansons, des rondes, et pourquoi pas? Elle écrit Le Chevalier de Paris. Edith Piaf interprète cette chanson. Ah, les pommiers doux, ronds des ritournelles, j'ai pas peur des loups, chantonnez la belle, ils sont pas méchants avec les enfants qui ont le cœur fidèle et les jeunes doux. Puis la chanson est reprise par Bing Crosby, Frank Sinatra, Marlène Dietrich, etc.
J'ai pas peur des loups, chantonnait la belle, ils ne sont pas méchants, avec les enfants, ont le cœur fidèle, et les jeunes blancs.
À Paris, l'amour.
la retrouver, croisant le soleil avec la rosée.
L'amour s'en vient, l'amour s'en va, comme les saisons. Et très élargie, il avait des nuages. Le temps s'écoule, elle se fixe à Paris, se marie, se métamorphose.
J'ai pas peur des loups.
Alors, 1965, 5 juin, soleil radieux, matin, lecture avec André, l'immortel de Rob Grillet. Promenade à pied.
Moi j'ai l'agenda de 68 là. 18 décembre, Société des gens de lettres, 38 rue du Faubourg Saint-Jacques, 17h avec Georgette. Matin coiffeur.
Et c'est quand elle était encore à Paris. Jeudi 18 juillet, liste de toutes mes émissions depuis 1948 pour adresser à Marcel Sauvage, classement émission. Jeudi 12 juillet, là on est en quelle année ? 1962, travail, émission, tricot. Le lendemain, pareil, travail, émission, tricot.
Donc sur la table, il y a ici ce carton qui contient des bandes magnétiques.
Donc c'est des bandes magnétiques d'émission ?
Oui, c'est ça, d'émission.
Sur l'ORTF.
Là, ça c'est le sang des nuits, France Culture, la Danielle.
Dans le cadre des émissions poétiques de France Culture, Angèle Vanier vous propose « Le sang des nuits ». Émission interprétée par Jean Topard et Catherine
Chronique
Sauvage.
Chronique du sommeil.
Alors, les fameuses chroniques du sommeil dont par ailleurs on a le script polycopié. Alors ça c'est...
C'est une bande aussi.
C'est une bande aussi.
France Culture. 1969,
Chronique du sommeil, Angèle Vanier.
Réalisation, Olivier Dorère.
Alors, Angèle Vanier propose pour France Culture Chronique du sommeil, une série de 6 émissions dont 4 sont ci-jointes.
Ces émissions doivent de préférence passer à une heure assez tardive, étant donné qu'elles ont pour but de mettre l'auditeur dans un climat de rêve. C'est drôle.
Angèle Vanier ne propose pas cette fois des émissions bâties avec des textes poétiques de divers auteurs encadrés par une prose personnelle et souvent émaillée de chansons poétiques. Voulant changer son style radiophonique, elle a créé entièrement ses chroniques du sommeil à partir de rêves personnels authentiques.
Tout ça était dans le poste radio, hein. C'était resté dans les tiroirs du bas. Hop.
11 février 71. Ah, il est excellent celui-là, regarde. Lunettes bleues qui me plaisent.
Ah oui, avec ses lunettes de toutes les couleurs. 30 juin 1969. Soleil ardent, message grave et doux, intelligent et profond, signé Fabrice.
1er avril 70. Journée bizarre, écoute la radio toute l'après-midi et réflexion sur Jean. Ça, c'était un de ses amoureux.
Ouais.
Orientation de ma part tout à fait différente, mais pas de porte fermée. Ah bah écoute, ça c'est 1er octobre 71. Je n'ai pas fait mon carnet en septembre. Je laisse tout en blanc, puisqu'aucune voix positivement claire ne s'est amorcée. Événement, divorce. Décision Michel appartement. Immeuble, c'est quoi ?
Ouais, parce qu'elle habitait avec Michel, alors soit à Courbevoie, soit à Neuilly, je me souviens plus.
Ah bah oui, c'est en 71. Et elle revient à Bazouges en 73.
Ouais.
Elle a été celle qui voyait, puis celle qui voyait plus. Elle a été celle de Paris, et puis elle a été celle de la Bretagne profonde. Elle a été la famille bourgeoise et l'insolente. Elle était tout ça à la fois, et elle voulait donner cohérence à tout ça. C'était un être de métamorphose. Et moi, je vois qu'il y a une continuité perpétuelle. Chez elle. Un esprit ardent et rebelle d'un bout à l'autre. C'était très curieux, cette femme un peu scandaleuse d'une certaine façon. C'était une personne complètement libre.
J'ai eu le temps d'enregistrer cette chanson. de la saisir au vol, et comme elle est vraie. Sommes-nous dans un théâtre, alors il y aurait un rideau. Sommes-nous dans un château, alors il serait tapissé de miroirs. Sommes-nous dans une grotte, alors le temps serait très ancien et elle se souviendrait. Sommes-nous dans un vaisseau de l'espace, alors le temps aurait éclaté. Elle s'interroge, de quoi faut-il parler et de quoi est-ce que je parle? Mais peut-être l'important n'est pas de savoir de quoi l'on parle, mais d'où. Importance du lieu dit. Nous sommes en Bretagne. Créons le climat. Nous sommes en Bretagne et dans un lieu clos, dans une demeure. Mais tout autour, il y a la mer. Dans mon roman, La Nuit Ardente, se soulève le problème avec cette demeure. Et pendant longtemps, j'ai cru que je devais la sacrifier pour aller vers l'homme. Comme de par une volonté supérieure, un destin supérieur, tout s'est passé pour que j'y revienne et l'assume. Donc le 24 juin, ce sera l'anniversaire de mon entrée dans cette demeure et un an de solitude et de réorganisation fondamentale de tout. Vous savez, Bazouge, je veux dire basilique de pierre. Et ma maison est le point le plus haut de Bazouge. Il y a des forces telluriques qui passent là, des courants de la Terre, des courants cosmiques. Eh bien, si je dois en faire, en ce qui me concerne, un monastère, c'est-à-dire maintenant y avoir une vie chaste, eh bien, je le ferai. Et si au contraire, je dois y vivre avec un compagnon, bien, je serai sûrement plus heureuse, mais bah, du moins je crois, mais je me trompe peut-être. C'est la vie qui le dira.
Aux auditeurs de Radio Armorique, aujourd'hui c'est chez vous que vous nous recevez, à Bazouge-la-Pérouse. Vous nous faites l'amitié de nous recevoir ici. Et je pense que durant cette heure, nous allons parler tout simplement des choses qui vous tiennent à cœur, de la poésie, et pourquoi pas aussi de cette maison que vous nous recevez ce matin.
Ça ne fait qu'un d'ailleurs, la poésie à la maison pour moi. D'abord, vous entendez ce tic-tac de l'horloge qui est là, perpétuel et rythme mon temps et va rythmer nos paroles. Parler de ma maison, bon, vous savez, c'est une bien grande maison pour une petite Angèle. Hein. C'est ainsi, j'ai été élevée là jusqu'à l'âge de 8 ans. J'y suis revenue après la cécité. Et puis, depuis que je suis revenue en Bretagne, j'y suis.
C'est ici, d'ailleurs, que vous travaillez, que vous écrivez.
Ah oui, toujours, oui. Je ne peux pas du tout travailler en dehors de la demeure. Ça, c'est pas possible.
J'aimais bien le mot « demeure ». Angèle ne disait jamais « ma maison », elle disait « ma demeure ».
Qu'est-ce que ça signifiait pour vous de différent, la demeure ?
Probablement, inconsciemment, une certaine pérennité. Le fait qu'elle ait vécu l'enfant, etc., et qu'elle y était revenue, parce que c'est bien ça, demeurer. C'était un peu là où elle se ressourçait, où elle se retrouvait, et où elle était en sécurité aussi, parce que c'est pas rien d'affronter le monde extérieur quand on ne voit rien.
Le Châtelet était quand même, disons, son berceau, son nœud fœtal, et je crois que la maison revêtait un caractère extrêmement puissant. Serge Bouvier, moi je l'ai connu en 75, je suis entré dans un endroit, mais alors réglé, noté, tout était à sa place, l'horloge, son petit banc près de la cheminée. Et ce qui m'a marqué énormément, c'était la brillance des parquets. Bon, il faut dire que Jeannine, qui l'accompagnait, était la femme maîtresse pour régler cette quotidienneté de la vie.
On dirait qu'elle a glissé comme sur un miroir en patinant d'une écriture de représentation vers une écriture d'apparition. Écriture onirique et de pure présence. La pure présence de l'image. La faire apparaître, oser dire, le laquais rouge au centre du salon. Sans commentaire, sans rien. Comme un peintre, mais avec des mots. Créer la pure présence d'un lac rouge au centre des salons.
Quand on voit ce qu'elle dit de rouge, mais toutes les couleurs est extrêmement présente dans sa poésie. Elle m'a sollicité pour l'étoile de Mayenne, pour encadrer les fenêtres du Châtelet, pour le choix des écharpes, des tenues de scène, des couleurs de ses lunettes.
Elle avait un salon avec des tons roses et vert amande. Je trouvais ça extraordinaire qu'elle ait attaché autant d'importance aux couleurs. Quand elle faisait des récitals, elle avait des lunettes de plusieurs couleurs qu'elle associait toujours à ses vêtements. Et donc, quand Jeannine faisait sa valise, elle faisait des nœuds particuliers à certains foulards, à certaines choses, suivant les couleurs.
Elle avait été voyante, donc elle avait connu les couleurs, mais non seulement elle les avait connues, mais elle les hissait de façon absolument remarquable. Toute sa poésie, d'ailleurs, baignait de couleurs. Pensons au Rouge cloître, un de ses derniers recueils.
Écriture onirique, écriture d'apparition, oui, oui. Car dans un rêve, on peut voir apparaître un lac rouge au centre des salons.
Vous voyez bien comme sa voix est c'est une sorcière, elle est ensorcelante. Il y a une puissance de présence dans sa voix. Et regardez sa poésie comme elle est immédiatement subjugante par l'image, par le déploiement onirique. Image mystérieuse et un peu surréaliste, puisqu'elle était un peu fiancée par le surréalisme au début, en tout cas. Ce lac rouge au sens du salon, il y a, dans cette image, il y a beaucoup d'angèles. Il y a la sensualité, il y a le sang de la vie, il y a le feu et le sang.
Le fait de ne pas pouvoir écrire le poème, d'être obligé par la cécité de le garder intérieurement, de le faire totalement avant de le laisser jaillir, bien je crois que c'est une très bonne chose au point de vue rythmique. Parce que moi je suis pour une poésie orale, je crois que la poésie est faite pour être dite. Forcément, comme je ne peux pas écrire mon poème, eh bien il s'inscrit en moi. Il me semble qu'il y a un accord plus total entre la pensée et l'expression de la pensée et son rythme.
Montage. Mais tout autour, comme une voix que le sommeil approche, la mer bat des cimes. Écrire, c'est peut-être tenter de vertébrer la mer pour la faire jouir par surprise d'un nouveau sens articulé.
Le magnéto agissait en tant que incitateur, répétiteur, quasi négociateur de la mémoire. Il se peut qu'avec le magnéto, il y ait un travail en boucle.
Tout était sur la table, elle avait ses deux magnétos à cassette. Il en fallait deux parce qu'il y en a, il y avait un pour la matière première et puis un pour monter, quoi, dans l'ordre.
On te fait écouter un,
ouais, ouais, ouais,
des petits bouts.
Et le poète Théophile Brillant, qui lui aussi était sale, le poète lui dit, et le
vais lui dire, fouille tes racines, fouille ta nuit, ton âme est celte, découvre-la, Viviane Bahu Mélusine. Fouille tes racines, fouille ta nuit, mais n'oublie pas le jour.
Si le magnéto était finalement son crayon, il y a forcément un moment où tu fais des ratures. Peut-être qu'elle devait tenter d'arrêter une phrase ou une portion de texte à un moment donné, en cherchant tout simplement, en naviguant, s'arrêter au bon endroit et écraser la partie qu'elle refaire rec. Ça, c'est sûr.
Son magnétophone, était toujours là. Donc, elle jouait avec ça comme avec un piano, quoi. Il y a des élans qui sont arrêtés, parce que tout, elle s'arrête, elle reprend. Et donc, ces blancs dans la page, qui sont des silences aussi, sont des redéparts. Il y a un surgissement qui arrive, elle s'arrête. Moi, j'ai vu faire ça. Et dans les années 70, où sa poésie s'éclate formellement, on a du vers cassé, rompu, avec plus de blanc. La force de cette poésie, c'est qu'elle ne devient pas abstraite ni conceptuelle, en raison du lieu d'origine qui est la voix.
Que s'est-il passé? Quelle transformation de femme! Quelle transformation d'écriture, de parole poétique. Femme, parole poétique, et de qui parlons-nous? De la femme ou de la parole, des deux à la fois et simultanément.
Ça fait combien de temps que t'es pas retourné dedans?
Ah bah, depuis qu'elle est décédée. Hein.
Ouais, d'accord.
Alors, il y a une grande salle à manger avec une baie vitrée qui donne sur le jardin, un grand salon qui communique et derrière une cuisine. Puis alors, des tas de petites pièces et beaucoup de chambres. Enfin, c'est une grande maison, il y a quand même 15 pièces.
Quelle est la pièce principale pour vous?
La salle, ce qu'on appelle la salle. C'est-à-dire la salle à manger, mais on dit la salle tout court. Quand Bonnefoy parle de la salle dans ses poèmes, ça m'a beaucoup émue. Parce qu'on dirait presque que c'est un lieu important de la terre, la salle, où tous les grands drames humains se nouent et se dénouent.
Y avait-il un feu de bois?
Ah oui, il y a toujours un feu de bois, il n'y a que ça. Je ne peux écrire qu'au coin du feu ou dehors au soleil.
C'est vous qui sonnez, Jenny?
C'est moi qui sonne. Quand elle a quitté son mari, elle est revenue ici. J'ai commencé en 74, qu'elle m'a demandé. Oui. Et je n'osais pas venir. Parce que je dis, bah, disons. Et puis si, de toute façon.
Et vous entendiez bien avec Angèle?
Ah oui, oh là là. On avait du plaisir, hein, des fois. Ouais, ah oui, super. J'aimais bien. J'arrivais à 8h30 à peu près, j'allais chercher des cigarettes, elle commençait par fumer sa cigarette, et le petit déjeuner après, et après, madame, soit qu'on faisait les courses, et je préparais à manger, puis du ménage sans doute, un peu, puis voilà. Et on faisait un tour à pied aussi après manger à peu près, puis j'arrêtais peut-être vers 15h ou 15h30, je ne sais plus, moi.
Je peux mettre le magnéto en route?
Discontinue. À part la sécurité de la demeure, son rythme avec Janine. Dimanche 14 janvier 79. Réveil à 9h30, bain, maquillage. Après la messe, vers 11h30, Marielle, fille de Janine, elle vient aider car je les boots. Janine a tout préparé dans la cuisine pour le couvert. Les belles assiettes mauves, les verres de cristal, les cuillères en vermeil. Je veux faire aux boots une belle fête des rois. Midi, Janine. Elle passe, allume le feu, vient me coiffer.
Okay, oui, ça fait longtemps. Hein. Et ce qui m'a tout de suite, j'ai entendu la, le tic-tac de la pendule. Et je savais pas qu'elle, qu'elle détaillait tout comme ça, comme si c'est, elle tenait un journal un peu.
Ben oui, elle ne nous disait pas, finalement. Heureusement, t'es là, t'es venue. C'est bien.
Il y a des bruits très secs, clac, et puis il y a des souffles très longs. Il y a aussi comme des tremblements de terre, des écroulements, quand tout d'un coup les bûches s'écroulent. Il y a le pétillement. Il y a des remous. Ça me fait penser à la mer. Ça paraît tout à fait bizarre de rapprocher le rythme du feu et le rythme de la mer, mais quand on a bien écouté très longtemps la mer, seule aussi, il y a un rapprochement dans les rythmes. C'est pas la même sonorité, c'est le même rythme. Bazouge, 10 avril, mon ami, mon amour, il a neigé cette nuit, et tant il a fait froid, que la neige est restée tout le jour.
Une jeune fille du pays, Françoise, qui fait des études à Rennes, jeune Lyon, encore, m'a proposé de sortir avec elle cette semaine. Alors aujourd'hui, Jeannine nous a conduits en voiture jusqu'à l'étang de la forêt. Et nous sommes revenus à pied, calmement. 7 kilomètres, c'est pas terrible. Puis nous avons pris le thé et médité au coin du feu et parlé.
Je suis tout à fait surprise et émue, surtout d'entendre sa voix. Et donc, je la retrouve. Et je ne savais pas qu'elle enregistrait son journal. Par contre, je savais qu'elle écrivait, enfin, que nous écrivions pour elle ce qui se passait dans la journée. Voilà, c'est quelque chose qu'on faisait systématiquement. Donc, et je me dis que vivre et reconsidérer ce qu'on a vécu dans une journée, c'est vraiment en prendre possession. Angèle, c'est une artiste, une poète. Alors, les idées qui la traversent, il faut qu'elles soient posées, après elles vont mûrir. Mais ce qu'on fait chaque jour, ça vient aussi faire son œuvre.
Elle traque les diverses strates de sa vie et les liaisons qu'il y a entre ces diverses strates, un petit peu à l'instar des couches de sédiments qui peuvent être différentes selon les alluvions.
Elle donne naissance à tout, à la moindre anecdote, à la moindre rencontre. Pour elle, tout rentrait dans un récit qui se construisait au fur et à mesure, qu'elle a réinventé aussi, hein, peut-être. Elle a inventé sa mythologie personnelle. Mais tout était très pensé, très réfléchi.
La fille qui avait perdu ses yeux traînait son cœur, traînait sa peine. Sous le grand soleil du bon Dieu. Elle n'avait plus figure humaine. Ça faisait fuir les amoureux.
La poésie et la vie étaient complètement liées chez elle. Et si j'en avais l'intuition, elle m'a révélé qu'il ne pouvait pas y avoir de séparation entre les deux et qu'il fallait vivre poétiquement, intensément, en brûlant d'une certaine façon, et que la poésie n'est que la flamme de ce feu intérieur.
Et comment voulez-vous qu'on aime une fille qui a perdu les yeux ? Écoutez-moi, les beaux garçons, vraiment, c'est pas une raison parce qu'on a les yeux blessés pour qu'on n'ait pas besoin d'aimer.
Un gars qui voyait bien pour deux, c'est
bon, j'ai
sur la fille en paix.
Est-ce qu'il y avait des amants ?
Ah, ben oui, si tout le monde,
oui. Une fois, un monsieur qui est arrivé chez le Baudou, il avait entendu à la radio. À ce moment-là, elle avait parlé pour peut-être France Culture, je ne sais plus, non. Et il est venu, il a débarqué à Combourg. Il avait, je ne sais pas, plusieurs valises. On dit, mon Dieu, c'est quoi? Et ce monsieur est resté, il dit, tu vas préparer à manger pour le soir, bien sûr, un repas froid. Il dit, quand tu penses qu'on n'a même pas mangé, il y avait autre chose à faire que de manger. Et voilà, c'était Angèle, ça. Des choses comme ça qu'elle rencontrait, ben oui.
Oui. Elle me disait, ben il n'y a pas d'âge pour aimer Françoise. Parce que ben, à cette époque-là, donc moi j'ai connu entre 56 et 63 ans, voilà. Pour moi, c'était déjà quand même une personne un petit peu plus avancée dans les âges. Je disais, il n'y a pas d'âge pour aimer Françoise.
Entre l'eau, la femme et la lune vont des secrets perpétuels, tissant la trame des fortunes qui joignent la terre et le ciel. Entre l'eau, la femme et la lune vont des vaisseaux, vont des enfants, depuis la naissance des temps. J'enlace la femme et la lune aujourd'hui plus étroitement.
Où allons-nous ?
Alors nous allons dans la forêt de la Ville-Cartier. Et dans cette forêt de la Ville-Cartier, il y a entre autres une superbe pierre du néolithique et qu'on appelle ici la pierre à sacrifice. C'est une pierre que nous a montrée Angèle en 1976 parce qu'elle avait pris l'habitude d'y célébrer les Saint-Jean. Et en plus, pas très très loin, il y a la présence d'un château, ce qui est aussi un thème récurrent dans la poésie d'Angèle. Présence d'un château. Elle se promenait beaucoup à pied dans la région étant gamine. Elle allait à l'étang du Boulet pour se baigner, car elle aimait beaucoup l'eau aussi. Et puis, elle connaissait tout ce pays de Bazouges par cœur. Voilà, nous voici à l'orée de la forêt.
Je pense qu'elle pensait avec force que le poète est une sorte de dépositaire de la mémoire et de réactiver les mémoires souterraines. C'est un mot qui me revient là. Hercynienne. Donc un mot que l'on trouve en géologie.
Pas aller trop vite.
Hercynienne.
Quand vous verrez un petit calvaire sur la gauche, il faudra tourner à droite. Et maintenant, nous allons continuer à pied. Vous voyez, il y a une espèce de tertre. Et puis, de part et d'autre, il y a ces gardes, ces lupins là qui nous servent de guide. Si on veut parler des arbres, on y trouve les 12, 13 essences du calendrier celtique. Donc le bouleau, le frêne, le sorbier, l'aulne, le saule, le chêne, le hou, le noisetier, et puis après le sureau. Oui, il y a du sureau.
Elle puisait ailleurs, dans la mythologie celte, bretonne, dans les tarots, dans l'astrologie. Elle puisait partout des images, des figures, des symboles, donc, qui lui permettaient de donner forme et visage à ce qu'elle voulait dire.
Pour Angèle, qui était du signe du lion, son arbre, c'est le chêne. C'est l'arbre solaire, l'arbre roi, que l'on vénère au solstice d'été, donc à la Saint-Jean. C'était sa fête préférée. On est comme dans un conte de Grimm, là, hein. Hors du temps. C'est le propre de Brocéliande. Brocéliande, c'est le pays de l'autre monde. Bro et Léan, le pays des merveilles de l'autre monde. Alors ici on peut considérer que ça fait partie de Brocéliande. Nous sommes maintenant à la porte sud avec un menhir qui est le gardien. Il faut vraiment venir ici pour réaliser ce que ce monolithe là, vous voyez. Alors vous voyez la rigole, elle est vraiment au sommet de la pierre et au milieu.
Et donc les gens y voyaient tout de suite le sang couler au milieu de la rigole. C'est une pierre qui fait dans les 100 tonnes au total. Elle fait 8 mètres de long. Alors qui est volontaire pour aller se coucher dans la pierre ?
Que veux-tu, Brocéliande ? Avec tes grands yeux verts, qui fait jouer le sang, qui fait jouer les nerfs. En ce temps où nous sommes, nous voguons encore, et prenons ta légende au mot de tes accords. Que veux-tu?
Aujourd'hui, je vais vous remettre dans l'ambiance. Vous imaginez que vous êtes dans une pièce plutôt carrée, avec une petite cheminée dans laquelle il y a du feu, et puis donc une table ronde. Donc quand on venait de balade, c'était l'heure du thé, donc pas n'importe quel thé, c'était du Lobsang Souchon. Donc on avait une belle théière en argent, tout à fait vrillée, voilà, jusqu'au capuchon, avec des jolies petites tasses en porcelaine bleue, en forme de fleurs. Et donc il y avait vraiment, c'était un moment de calme, où on était avec soi-même. Et systématiquement, on tirait les cartes. Donc quelles cartes ? C'était les cartes de tarot, les 22 lames du tarot. Et donc on faisait un tirage à partir d'une question. Et donc après, on visitait les 12 maisons. Bon, les 12 maisons correspondent aux 12 maisons en astrologie aussi. Parce qu'Angèle était aussi, je dirais pas qu'elle est astrologue, mais très férue d'astrologie.
C'est le 2 janvier, je dis. Et il est quelle heure ?
Il est 18h.
Il est 18h. Alors maintenant, on va voir Uranus. C'est un petit peu moins drôle, hein. Bien que extrêmement important. Uranus, c'est le cheval d'Attila. Là où il passe, l'herbe ne repousse pas. Ben, comme moi, tu subis un carré d'Uranus au soleil et à Uranus en verso. Bon. Ah, je peux pas dire autre chose, là. C'est mystérieux, puis tu le sentiras bien. C'est un désir d'éclater dans autre chose. Une espèce de révélation en flash de toi-même. Tu sais, tellement important les transits que nous subissons actuellement.
Donc on faisait des thèmes régulièrement. Angèle disait toujours, les astres proposent et l'être dispose. Voilà. Donc ça veut bien dire qu'on est aussi maître de sa vie, un terreau, mais c'est notre personnalité aussi qui fait que on va lui donner une certaine couleur.
Bon, ben, pour les autres petites planètes, hein, j'en ai dit assez maintenant, et puis tu as la tête complètement farcie. J'avais d'abord pensé enregistrer seulement cela avec Jeannine Poget, puis reprendre la bande, et te faire ça tout beau, tout bien fait, tout bien machiné. Ben, c'est trop compliqué. Alors finalement, cette séquence de bande, je te la livrerai en vrac, comme ça, toute spontanée, toute instinctive, et pourtant, je peux t'assurer, bien lucide, bien élucidé, bien réfléchi. Et... ah, voilà l'heure. Quelle heure ? C'est 6h30, je crois. 18h30. C'est le 2 janvier. Je t'embrasse, Angèle, et je reprendrai cette bande qui sera par bout bizarre, je sais pas quand. Il est 7h20. J'écoute les tangos futurs d'Astor Piazzolla que j'aime tant. Je pense au 2 décembre, fête de Viviane, jour anniversaire de la mort de ma mère, au destin.
Quand je l'ai perdu, je vous jure que... On cherchait des livres pour aller faire un récital à Angers. Et dit, on ira faire les courses après, et c'était un jeudi. Tout d'un coup, ça l'apprend, ça dit, ah ben écoute, Janine, ça va pas. Je l'ai attrapée, et puis elle s'est affaissée, elle est décédée. 11h pile. Et j'ai toujours dit que l'horloge s'était arrêtée. Ce matin-là, c'était une horloge qu'on remontait tous les jours. Et là, elle s'est arrêtée à 11h. Et puis il m'avait dit, si je passe le 2 décembre, je suis encore bonne pour cette année, que disait, je vous jure, en faisant les cartes. Hein? Et voilà, Angèle est partie. Ouais.
C'était le 2 décembre
2 décembre, 80. Ouais, ouais. Et puis elle m'avait dit avant, elle dit que si je pars, tu fais dans mon cercueil, tu fais mettre décoré de violet. C'est ce qu'on a fait.
Le rideau imaginaire du théâtre imaginaire se referme. Le voyage dans l'espace imaginaire se poursuit. La barque avance. Où allons-nous ? Bonsoir.
Je n'ai jamais vu plus beau visage que sa voix.
Avec la voix d'Angèle Vanier,
avec Janine et Marielle Barbé, Françoise Beaubon, Serge Bouvier, Nicole Laurent-Catrice, Julien Mériot, Myrzine et Jean-Pierre Siméon.
Chant et harpe, Myrzine.
Merci à Mylène Le Guyader et à Gilles Thomas.
Merci à David Chevrier de Superflu et à l'équipe de la médiathèque Angèle Vanier.
Et merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés et qui nous ont confié les cassettes d'Angèle.
Avec le soutien du département d'Ille-et-Vilaine, du ministère de la Culture et de Micro-Sillon.
Archivina, Inès Barja. Prise de son, Benjamin Troncin et Cédric Châtelus. Mixage, Manuel Couturier.
Une création sonore de Jeanne Léveder et Anne Kropotkin, réalisée par Marie-Laure Ciboulet.
L'expérience, Aurélie Charon et Inès Duperron.